Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Émet.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Appel sur l'actualité lance le débat jusqu'à 9h, temps universel. Aujourd'hui, l'explosion démographique en Afrique. Selon un rapport de l'UNICEF sorti hier, la population africaine va doubler d'ici 2050. Le taux de mortalité baisse, mais la population continue. Les familles continuent à avoir beaucoup d'enfants. Certains spécialistes parlent d'une bombe à retardement, car les défis à relever, sont immenses. Ils sont énormes en termes d'urbanisation, de partage des richesses, de nourriture, d'éducation, de santé, etc. Cette tendance est-elle un risque ou une opportunité? Selon vous, il y aura beaucoup de jeunes. Comment faire face? Comment absorber cette nouvelle population? Nous lançons le débat ensemble. Pour nous joindre, 33 9 693 2 fois 70 ou 09 693 693 70 si vous appelez de France. N'oubliez pas notre email appel au pluriel .actu@rfi.fr. Nos comptes Facebook et Twitter sont également à votre disposition. Mais avant de lancer le débat, comme chaque jour, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre, pour mieux décrypter l'actualité. Une première partie de l'émission aujourd'hui exclusivement consacrée à la Turquie, à l'élection du président Erdogan. Et un premier auditeur en ligne, c'est Ayebi David. Bonjour.
Bonjour monsieur Sébastien Nimet, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Parakou, dans le nord du Bénin, et vous avez donc des questions concernant l'élection présidentielle turque.
Oui, exactement.
On vous écoute.
Ma question est de savoir, M. Erdogan a été élu dès le premier tour à l'élection présidentielle du dimanche dernier. Qu'est-ce qui explique cette élection dès le premier tour, alors que l'ex-premier ministre était vivement contesté par les différentes manifestations et les soupçons de corruption qui pesaient sur lui?
Effectivement, c'est une bonne question. Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, est entré dans l'histoire dimanche en devenant, dès le premier tour, avec près de 52% des suffrages, le premier président de la République turque élu au suffrage universel direct. Pour vous répondre, Jérôme Bastion est en ligne. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant en Turquie. Comment expliquer cette victoire quand même écrasante, même si elle est peut-être pas si élevée que les sondages le prédisaient, mais 52% des voix pour Erdogan, Eklemedin İhsanoğlu n'est qu'à 38%, Salahattin Demirtas est à presque 10%. Comment expliquer cette victoire facile, entre guillemets, d'Erdogan, alors que il y a un an, il y avait 3 millions de Turcs dans les rues contre lui?
Oui, même 6 millions, d'ailleurs, si on compte l'ensemble des manifestants qui étaient dans les rues des différentes grandes villes de Turquie pendant quasiment un mois. C'est effectivement une surprise. Alors, il ne faut pas seulement évoquer ces grandes manifestations de juin 2013, il faut aussi évoquer les scandales de corruption qui se sont égrenés pendant plusieurs semaines entre décembre 2013 et janvier 2014 et qui ont suffisamment secoué le gouvernement pour que plusieurs ministres soient forcés à démissionner. Alors, il faut d'abord dire une chose qui est malheureusement récurrente en Turquie. Il n'y a pas d'opposition fiable, crédible, qui soit capable de prendre une quelconque relève face à la machine extrêmement efficace de l'AKP au pouvoir depuis 12 ans. L'AKP, c'est le parti de la justice et du développement de M. Erdogan, justement. M. Erdogan qui est, lui, au pouvoir depuis environ 11 ans. M. Erdogan est lui-même un politicien extrêmement habile, extrêmement fort. C'est un tribun, c'est un homme extrêmement charismatique qui tient très très bien son parti et qui a réussi, après tous ces remous quand même, depuis juin 2013 et puis décembre dernier, qui a réussi à resserrer passablement la vis. Il a évincé des dizaines de milliers, je dis bien des dizaines de milliers de policiers, de procureurs, de juges, pour faire taire la justice, en gros, pour museler la justice, l'opposition. Beaucoup de journalistes sont en prison ou en tout cas sont poursuivis. Et puis face à tout ça, donc il n'y a pas d'opposition.
Erdogan, qui a un discours qui porte, il se présente toujours comme un homme du peuple, victime de complots des élites, Jérôme.
Voilà, il a créé autour de lui une opinion, très facile à convaincre, nationalo-islamiste, qui réagit au quart de tour sur le complot international ou sur le complot intérieur aussi, puisque M. Erdogan affirme depuis maintenant 15 mois environ qu'il y a la fameuse confrérie Gulen qui veut prendre le pouvoir, la structure parallèle à l'intérieur du pouvoir qui veut renverser son gouvernement. Donc c'est la théorie du complot, c'est la théorie classique des populistes qui disent que parce qu'ils sont élus par le peuple, si quelqu'un se dresse contre le dirigeant élu par le peuple, il est forcément l'ennemi du peuple, il est l'ennemi à abattre. Et donc cette rhétorique marche très très bien. Et puis il faut dire aussi, quand même, il faut reconnaître les avantages du gouvernement AKP. L'AKP au pouvoir depuis 12 ans a quand même réussi dans le domaine économique, hein, passablement.
Forte croissance de la Turquie,
la société turque est plus riche qu'il y a 12 ou 15 ans. Et donc, voilà, les conservateurs, en gros, la majorité de la population qui est conservatrice, continue d'avoir confiance en son chef.
Restez avec nous, Jérôme. Beaucoup de questions sur la Turquie ce matin. On salue Ayibi David qui nous appelait depuis Parakou au Bénin. 33 9 693 2 fois 70 pour nous joindre au standard. Adam, bonjour.
Bonjour Sébastien et bonjour à tous les fidèles auditeurs de RFI.
Vous êtes à N'Djamena au Tchad et vous aussi, vous avez des questions concernant l'élection turque. On vous écoute.
Bonjour Sébastien et bonjour à tous les fidèles auditeurs de RFI. Dimanche dernier, j'ai écouté sur les antennes de RFI que le premier ministre de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a été élu président de la République. Jusque-là, il était premier ministre au pouvoir et il va rester en tant que président de la République. Alors Sébastien, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui explique ce changement de régime politique en Turquie et pourquoi la Turquie est-elle passée d'un régime parlementaire à un régime présidentiel ?
Alors effectivement, Jérôme Bastion, on est passé là à une révolution un peu électorale puisqu'on passe au suffrage universel direct, c'est une première, hein.
Oui, c'est une première pour des raisons historiques, hein, effectivement. En gros, dans ce pays, l'armée avait toujours la haute main sur la politique et donc préférait des alliances de circonstances et des présidents élus par consensus par le Parlement. Parce qu'en gros, quand deux ou trois partis doivent s'entendre sur une majorité pour élire un président au Parlement, eh bien en général, on choisit le plus petit dénominateur commun, le président le moins politique, le moins politicien et le moins fort. Et donc, c'était très pratique pour l'armée d'avoir, de maintenir ce système. Mais la révolution, elle vient en fait d'Erdogan et du Parti de la Justice et du Développement. Un tout petit rappel, en 2007, l'AKP de M. Erdogan était déjà au pouvoir, bien entendu, mais installé depuis plus de 5 ans, et il s'agissait à ce moment-là de renouveler justement le président de l'époque. Et donc au Parlement, l'AKP était largement majoritaire, mais pas suffisamment pour élire le président. Donc il y a eu des tractations, il y a eu des jeux de coulisses. Le premier ministre de l'époque, déjà, M. Erdogan, voulait absolument se présenter, parce qu'il a toujours eu beaucoup d'ambition, et notamment cette ambition de devenir le président de la République. Mais on lui a fait comprendre qu'il ne serait jamais élu. Donc il avait proposé à l'époque, à sa place, un homme plus consensuel, moins agressif, on va dire, moins ambitieux que lui. Et c'est comme ça que M. Abdullah Gül est venu au pouvoir. Mais M. Erdogan en a gardé une rancœur féroce et farouche. Et il a demandé, à ce moment-là, il a décidé de passer au suffrage universel et de se faire donc élire lui-même. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à cette situation qui est peut-être probablement plus démocratique d'une élection au suffrage universel pour que M. Erdogan puisse se faire élire. Et donc, il n'y a pas encore de changement de régime, parce que M. Erdogan, et là c'est un échec pour lui, qui avait bien prévu de passer à un régime présidentiel ou semi-présidentiel, qui ferait de lui ou du président en tout cas, mais de lui en l'occurrence un président fort, eh bien ces modifications constitutionnelles n'ont pas pu encore avoir lieu. Donc M. Erdogan est élu aujourd'hui comme président, il a toujours dit ces derniers mois qu'il voulait être un président fort, un président qui notamment convoque et préside le Conseil des ministres, mais en fait pour l'instant il n'en a pas encore les prérogatives constitutionnelles. Donc on va voir s'il va arriver à effectuer ces changements dans les institutions, mais pour l'instant il n'est que le président qui succédera à Abdoulaye Gül, un président d'un régime parlementaire typique, c'est-à-dire un président relativement honorifique.
Donc on n'est pas encore tout à fait dans le changement de régime, même si ça commence. Justement, restez avec nous, Jérôme, parce que ces réformes constitutionnelles, ça va être le thème de la question suivante. Merci à Adam qui nous appelait depuis N'Djamena. 339 693 2 fois 70. Nous sommes en ligne avec l'arrêt. Bonjour.
Oui, c'est bien sûr l'arrêt, c'est face à l'ONU Togo. Je salue toutes les Togolaises et tous les Togolais, c'est essentiel. Alors toujours dans les bouleversements liés au régime turc, comment Erdogan souhaite-t-il repartir le pouvoir entre les deux têtes de l'exécutif, c'est-à-dire entre le président de la République et le Premier ministre? Quelle sera ensuite l'influence du futur Premier ministre face au président?
Ah oui, Jérôme, c'est une vraie question, puisque pour l'instant, sur le papier, Erdogan n'a que le titre honorifique de président, il a un pouvoir honorifique, et celui de Premier ministre, c'est là qu'est le vrai pouvoir, Jérôme. Comment on va s'articuler la lutte d'influence entre les deux côtés?
Alors c'est effectivement la question centrale, hein, parce que on l'a dit, il faut le rappeler, M. Erdogan aurait voulu effectuer les modifications constitutionnelles lui permettant d'être un président fort, lui qui est maintenant élu et qui sera le prochain président de la République à partir du 28 août prochain, mais il n'est toujours qu'un président honorifique. Alors si ces modifications constitutionnelles passent, il n'y aura pas de problème. Tout le problème, c'est d'y arriver. Or, pour l'instant, si elles n'ont pas pu être effectuées, ces modifications constitutionnelles, c'est parce qu'il n'y a pas de majorité. La majorité est suffisante à l'Assemblée pour effectuer ces modifications-là, c'est de 3/5. La KP en est loin pour l'instant.
Et oui, c'est ça, il faut 367 voix sur 550 pour faire passer cette réforme. La KP n'en a que 313. Il a donc besoin d'alliances, hein, Jérôme, c'est ça?
Voilà. Alors il n'y aura pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance possible avec l'opposition ou les oppositions en ce moment. Le problème, c'est que donc Monsieur Erdogan veut être un président fort et il est en train de forcer en quelque sorte les institutions pour être malgré tout un président fort qui va organiser la vie politique au quotidien. C'est-à-dire la vie du gouvernement, c'est-à-dire la réunion du Conseil des ministres hebdomadaire. Mais ça pose un problème. Alors il faut savoir que pour l'instant, et ça c'est déjà une anomalie, le nouveau futur président Erdogan est toujours Premier ministre aujourd'hui. Bon, il aurait dû démissionner, mais il ne l'a pas fait. Il est toujours également président du parti AKP. Et ça aussi, c'est une bizarrerie typique. Et c'est le mauvais signe que M. Erdogan entend forcer les institutions et se mettre en porte-à-faux avec notamment la Cour constitutionnelle. Donc il prend énormément de risques. Ce qu'il voudrait, ce dont il rêve dans le contexte actuel, aujourd'hui, c'est-à-dire avant que les modifications constitutionnelles n'aient pu être adoptées, c'est un Premier ministre qui soit un Premier ministre de façade, en quelque sorte. Un Premier ministre de paille, à sa main, donc quelqu'un qui n'est pas trop d'ambition et qui n'est pas trop d'autonomie d'action, si on peut dire. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à nommer ce Premier ministre. Monsieur Gül, l'actuel président, a refusé le tour de passe-passe à la russe, si on peut dire, qui consisterait à passer de Premier ministre, de président à Premier ministre pour lui, alors que M. Erdogan passe de Premier ministre à président, parce que, justement, il ne veut pas être à la botte de M. Erdogan. Et M. Erdogan a beaucoup de mal à choisir ce personnage, parce qu'il sent bien, et c'est en ce moment au cœur d'un débat, d'une lutte féroce à l'intérieur de l'AKP, il sent bien que beaucoup, qu'une majorité de personnes à l'AKP ne veulent plus de ces jeux internes et de ce contrôle extrêmement exclusif du pouvoir qu'exerce M. Erdogan depuis 12 ans maintenant. À l'AKP, les gens ne respirent plus. Si on n'est pas dans le camp d'Erdogan, si on n'est pas à la botte dans la main d'Erdogan, eh bien, on est mort. Et les gens ont manifestement, quand je dis les gens, c'est les responsables de l'AKP, en ont manifestement marre, donc ils ne veulent pas rentrer dans le jeu que M. Erdogan essaye de leur imposer. Il veut nommer le président, le futur président de l'AKP, qui normalement, habituellement, hein, c'est pas une loi écrite, mais sera aussi le Premier ministre, et à l'AKP, ça renacle. Monsieur Gül a annoncé qu'il retournerait à l'AKP, à la vie politique active, après avoir quitté sa fonction de président. Ça a jeté, ça a semé la panique dans le parti, parce que M. Erdogan sent bien, et les caciques, les proches de M. Erdogan sentent bien que M. Gül va retourner à une vie politique active. Or, depuis des années, on sait très bien, toutes les enquêtes ont montré que M. Gül était beaucoup plus populaire, beaucoup plus apprécié que M. Erdogan. Donc, M. Erdogan est en train, peut-être, de perdre le pari, son pari, c'est-à-dire de tenir, de continuer, bien qu'il soit président, de continuer à tenir le parti d'une main de fer, à contrôler le gouvernement d'une main de fer également. Et s'il n'arrive pas en plus à faire passer les modifications constitutionnelles qui feront de lui un président fort, donc qui à ce moment-là pourra contrôler le gouvernement, eh bien il aura perdu son pari. Et rien ne dit qu'il arrivera effectivement à surmonter cette opposition de l'intérieur. Il y a une vraie ambiance en ce moment de complot, de coup d'État à l'intérieur de l'AKP, parce que les gens en ont marre d'une certaine manière du contrôle exclusif de M. Erdogan. M. Erdogan n'a pas fait passer les réformes constitutionnelles nécessaires pour être un président fort, et rien ne dit que l'AKP aura la majorité ou même la volonté de laisser faire à M. Erdogan ce qu'il veut une fois qu'il sera président de la République intronisé le 28 août.
Merci Jérôme, il nous reste 2 minutes pour prendre un dernier auditeur. On salue Larré qui était à Lomé. Bonjour Nzima.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes à Grand Bassam près d'Abidjan. On écoute vos questions s'il vous plaît rapidement.
Bonjour aux auditeurs de Mondoukou, RFI, de Grand Bassam. J'ai 2 questions toujours sur la thématique turque. La première, comment vont évoluer les relations entre la présidence de Recep Erdogan et la confrérie Gulen? Autrement dit, va-t-on vers une réconciliation ou des relations envenimées?
Effectivement, Jérôme, cette confrérie Gulen, il nous reste 1 minute 30, même pas 2 minutes. Cette confrérie Gulen, cet état dans l'état, très influent dans l'administration, au sein de la police, il y a eu une grosse répression d'Erdogan. Comment vont évoluer les relations avec la présidence?
Ah bah écoutez, c'est peut-être presque le seul message négatif qu'a adressé M. Erdogan le soir de son élection, parce qu'il avait le reste de son discours était très conciliant, très ouvert, très pour la réconciliation, mais le seul message négatif qu'il a adressé, c'est bien en direction de cette confrérie de Fethullah Gulen. Il leur en veut, si on peut dire, à mort. Il a promis leur destruction totale. Donc dans ce cadre-là, effectivement, on peut s'attendre à ce que M. Erdogan continue d'aller jusqu'au bout, et c'est cette dureté, ce message extrêmement dur de volonté d'éradication totale qui aussi, entre autres, énerve les gens au sein de l'AKP. Ça suffit, dit-on, il faut maintenant que M. Erdogan est président, il faut changer de style de gouvernance, il faut adoucir un peu le propos, il faut élargir, il faut réconcilier, mais M. Erdogan ne l'entend pas de cette manière, et il a promis qu'il allait continuer à... Il veut vraiment en finir avec cette confrérie Gulen, parce qu'il est persuadé que cette confrérie Gulen n'a pas fait simplement une opposition constructive, une opposition de l'intérieur, mais il est persuadé, ou en tout cas il le présente comme ça, qu'il voulait comploter pour renverser son gouvernement. Monsieur Erdogan a un petit peu un complexe de paranoïa, et il a donc promis qu'il allait continuer l'éradication totale de cette confrérie Gulen, qui n'est pourtant pas un mouvement politique, c'est simplement une contestation démocratique de l'intérieur.
Merci beaucoup Jérôme Bastion, merci Anzima pour vos questions depuis Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Restez avec nous, on va marquer une courte pause, puis le journal, et puis dans 10 minutes, le débat consacré aujourd'hui à l'explosion démographique en Afrique. Comment absorber cette nouvelle population? Comment faire face? Nous lançons le débat 33 9 693 2 x 70 ou 09 693 693 70. Si vous appelez de France, nous attendons vos appels. N'oubliez pas nos comptes, bien sûr, Facebook et Twitter.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.